おかしいおかしい。
Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir. Clôture ce mardi à Kinshasa du 29e sommet de la SADC. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, accède à la présidence de cette organisation sous-régionale pour un mandat d'une année. Quelles sont les priorités du chef de l'État congolais à la tête de la SADC et comment compte-t-il s'y prendre pour les réaliser? Comme invité, nous recevons Ernest Lungu Kasongu, sénateur, membre de la majorité présidentielle et rapporteur adjoint de la Commission des relations extérieures du Sénat. Il était parmi les invités à ce sommet. Bonsoir, monsieur le sénateur.
Bonsoir.
Bernard Ali Rissassi, porte-parole du parti politique de l'opposition Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir, monsieur Bernard.
Bonsoir, monsieur.
Professeur Edikia Mbokolo, analyste politique et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, en France. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le 29e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est en train de se clôturer aujourd'hui à Kinshasa. Hier, à l'ouverture et en dehors des discours, un des moments forts a été la passation de pouvoir entre le président sud-africain Jacob Zuma et le Congolais Joseph Kabila, qui le remplace ainsi à la tête de la SADC pour un mandat d'une année. Aujourd'hui, les travaux se sont poursuivis à huis clos à la Cité de l'Union africaine. Quelles sont les priorités du chef de l'État congolais à la tête de cette organisation sous-régionale? On écoute Joseph Kabila, président en exercice de la SADC. Ses propos sont recueillis par José Deschartes-Minga.
À l'ordre du jour de nos assises figurent des sujets très importants qui nécessitent un examen approfondi et des décisions afin que le projet concret puisse se matérialiser à court, moyen et long terme pour le bénéfice de nos peuples. Je vais donc pour mémoire passer quelques-uns en revue. Dans le domaine du changement climatique, nos États membres et nos populations ont déjà les effets néfastes tels la sécheresse pour les arbres, les inondations pour les autres, ainsi que leur impact négatif sur la production agricole et la sécurité alimentaire. Dans le domaine du commerce, nous saluons le lancement lors du 28e sommet en Afrique du Sud de la zone de libre-échange et continuons à penser que ceci constitue une étape importante vers la fluidité du commerce dans notre zone. Le secteur de l'énergie devra faire l'objet de notre attention particulière au courant de ces assises et dans le mois à venir. Pour ma part, je m'emploierai à encourager la recherche d'une stratégie mutuellement avantageuse pour le règlement de ce problème prioritaire, non seulement au cours de ce sommet, mais durant tous nos mandats à la présidence de la SADC.
Ernest Lungu, quelle lecture faites-vous des priorités du président Joseph Kabila à la tête de la SADC?
Je crois que Joseph Kabila pourra changer la tenue de la façon de diriger pour l'Afrique australe.
Comment ça concrètement?
Concrètement, il y a beaucoup de choses à faire. Vis-à-vis de ce qu'il a déjà fait. Vous savez qu'aujourd'hui, Joseph est le président de l'Union africaine
de la communauté des États africains, l'Afrique centrale, TEAC.
Oui, aujourd'hui, il devient président de la SADC.
Et ce n'est pas embrasser trop de choses à la fois, là?
Non, ce n'est pas embrassé. C'est quoi? Même vous allez l'aider.
Bernard Ali Rissassi, vous venez de suivre le sénateur Ernest Lungu. Comment vous réagissez aux priorités telles qu'énoncées par le président Joseph Kabila?
Je dirais ceci. Dans un espace économique et géographique comme la SADC, tout pays qui se respecte doit d'abord savoir quoi apporter par rapport à la situation qu'elle occupe, c'est-à-dire situation géographique, géologique et par rapport à ses richesses. Vous avez suivi le paysan dans ce qu'il a à dire, il a fait allusion à l'écosystème. L'écosystème fait partie de l'environnement de notre pays et notre pays est l'un des plus grands pays à travers le monde qui occupe un espace géographique et géologique tel que cela ne peut pas être négligé. Le Congo ne peut produire des effets et le président ne peut, à mon avis, produire un travail éloquent que lorsque le Congo sera capable d'apporter un plus à cet espace géographique. Et pour cela, il faut d'abord qu'il commence par bien, mais alors bien s'occuper du Congo. C'est seulement après s'être bien occupé du Congo que le Congo pourra apporter un plus au niveau de la SADC et au niveau de la CIAS. Professeur Eli Kambokolo, le Congo pourra apporter plus, si je comprends Bernard Alirissasi, en partant d'une impulsion en interne. Votre lecture par rapport aux priorités du chef de l'État.
Bon, je crois que il faut voir d'abord les données du problème aujourd'hui. Donc, Joseph Kabila est président de la République depuis de longues années déjà. Il est président depuis plus longtemps que Jacob Zuma. Ceux qui le précèdent, comme Denis Sassou Nguesso, le sont depuis très longtemps, avec un certain nombre de casseroles, je dirais. Hein. Donc, il a un capital politique de légitimité qui n'est pas négligeable et qu'il peut utiliser dans ce système. Il dispose aussi d'une deuxième chose qui est un ensemble de choses objectives. C'est donc la taille de notre pays. C'est, comme vient de le dire le représentant de l'UDPS, le poids considérable de nos ressources naturelles. Et donc le Congo est le déchet dans le cadre de l'Afrique centrale et du bassin du Congo, la deuxième superficie forestière mondiale après le Brésil. Et il y a en outre que nous sommes une population nombreuse, 60 millions, qui représentons un marché du travail et un marché de consommateurs potentiels important. Alors le fait qu'il est en même temps président de la CEAC, vous disiez que c'est peut-être trop embrassé, mais on peut penser aussi que ça lui donne une double casquette et une vision un peu plus large que ses autres collègues présidents qui travaillent seulement à l'intérieur de leurs frontières. Et donc je pense que cela ajouté à une dernière chose, c'est que le Congo va fêter son 50e anniversaire et les chefs d'État et de gouvernement qui ont été réunis à Kinshasa ont rendu hommage à juste titre à Patrice Lumumba. Donc nous avons aussi un capital symbolique qui est important et qui pourrait être mis en œuvre de manière très positive et pour la SADC et pour la visibilité et le rayonnement de la RDC.
Ernest Lungu, monsieur le sénateur, hein, le président Kabila, en dehors du changement climatique, a aussi énuméré le secteur énergétique. Il dit par exemple, je le cite, le déficit énergétique contraste avec le potentiel considérable. Hein. Il faudrait maximiser l'énergie au niveau de la SADC. Mais je crois que ce qui intéresse le Congolais, hein, moyen, comment allons-nous distribuer de l'électricité en Afrique du Sud et ailleurs tant qu'à Kasumbalesa, à Kinshasa, à Kananga, on a un problème d'électricité. Ça figure parmi ses priorités.
On a un problème d'électricité. Ce n'est pas tout simplement, c'est un problème global d'électricité.
C'est-à-dire,
nous avons beaucoup de barrages qui demandent d'être entretenus. Maintenant, on s'y prend, un petit à petit, à réfectionner les mêmes barrages qu'on avait. Ce sont ces barrages-là, et puis, il y a le barrage d'Inga qui est sollicité pour servir pratiquement toute l'Afrique. C'est dans ce sens-là qu'on pourra peut-être arriver à solutionner ce problème. Le problème le problème de
l'énergie. Bernard Ali Rissassi.
Bon, le problème de l'énergie, comme vous venez de le dire, notre pays est un pays déficitaire au point de vue énergie. Moi, j'aimerais pousser un peu mon raisonnement plus loin en disant ceci. Vous parlez d'énergie électrique, c'est vrai, mais nous pouvons avoir de la bonne énergie que lorsque nous avons aussi une énergie humaine capable, efficace, qui puisse produire des effets escomptés pour le développement du Congo. L'énergie dans notre pays est mal distribuée, elle est aussi mal gérée. C'est ce qui implique le mauvais entretien du réseau électrique. Les pays de la SADC savent ce qu'ils veulent. Ciblent exactement quel intérêt ils ont ici au Congo, par rapport aux richesses du Congo et par rapport à l'énergie que le Congo peut leur apporter. Mais en contrepartie, le Congo, à l'état actuel, a-t-il mis les moyens, a-t-il rangé les hommes qu'il faut pour déceler les intérêts que le Congolais doit avoir dans cet espace géographique et économique? C'est là le grand problème au Congo. C'est pourquoi vous entendez des gens dire « Nous distribuons l'énergie ailleurs, mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'énergie dans nos maisons et dans nos familles. » Justement, c'est à cause de l'homme congolais qui est mal entretenu, qui est mal utilisé. Et je crois que si vous vous souvenez bien, le président de la République a parlé de tolérance zéro. Mais il faut que cette tolérance zéro ne soit pas que des slogans sur le fronton des édifices. Il faut que cela s'applique réellement, de manière à ce que, au moment où cela sera bien appliqué, il y aura de l'énergie humaine qui sera capable de produire de l'énergie totale pour le Congo et pour l'intérêt des Congolais.
Professeur Elikia Mbokolo, sur le plan énergétique, comment la RDC peut maximiser ce potentiel énergétique?
Bon, donc nous avons des sites hydroélectriques importants et depuis, je dirais, 50 ou 60 ans, tout le monde dit, c'est vrai que le site d'Inga a vocation à desservir la totalité du continent africain. Nous avons déjà commencé à desservir une grande partie de l'Afrique et cette distribution nous rapporte de l'argent. Et là où M. Bernard Ali Rissassi a raison, c'est que cet argent que nous récoltons de la vente de notre hydroélectricité, il faut qu'il bénéficie de la tolérance zéro. Il faut que cet argent retombe effectivement dans les caisses du Congo pour servir au bien-être des populations. Mais les richesses du Congo sont telles que nous avons la possibilité d'avoir des barrages plus petits à vocation plus restreinte. Nous avons la possibilité aussi de prospecter des sources nouvelles. Et penser à une chose, c'est que le Congo est exactement en face du Brésil. Le Brésil utilise de l'énergie d'origine agricole. Et nous avons les mêmes ressources que le Brésil, et nous pouvons ajouter ça à la palette de nos potentialités. Et n'oublions pas aussi que des pays comme le Nigeria, des pays comme le Niger, utilisent abondamment l'énergie solaire. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser cette énergie solaire. Donc en fait, ça veut dire que il y a pénurie d'énergie aujourd'hui, mais il y a surabondance des possibilités énergétiques. Le problème, je rejoindrai là en effet monsieur Alérissa, le problème c'est que il faut d'une part la volonté pour les utiliser, il faut les techniques pour les utiliser et il faut les hommes pour les utiliser. Aucun pays de la SADC n'a autant de ressources énergétiques que nous et donc nous devons jouer notre rôle de pays pilote.
Monsieur le sénateur Ernest Longou, il y a cet auditeur, Malonga Koubali de Bandundouville, qui se demande comment le président de la République va-t-il se partager entre le programme de 5 chantiers de la RDC et ses priorités à la tête de la SADC, compte tenu de son rôle pour la bonne marche de ces chantiers.
Ben, il y a des hommes, il est entouré par des hommes. Il doit avoir des zones pour chaque projet. Il y a des hommes pour tous les projets.
Alors, Il y a, à part le secteur énergétique, le président de la République a aussi parlé des infrastructures pour faciliter l'intégration par la circulation des personnes et des biens. Les infrastructures font également partie des 5 chantiers du chef de l'État, mais en interne, la RDC est-elle prête à partager cette infrastructure avec les autres pays de la SADC, monsieur le sénateur Ernest Lung?
Non, d'abord, nous devons commencer par nous-mêmes. Commencer, comme on a déjà fait, on a déjà commencé, maintenant vous voyez des chantiers faits partout. À Lubumbashi, à Kananga, dans le Kivu, et ici, il y a des chantiers. Donc,
allez-y, je vous en prie.
Bon. C'est pourquoi ces chantiers sont. Il y a des personnes qui sont censées piloter ces chantiers.
Bernard Ali Rissassi, les infrastructures. Il y a des personnes qui sont censées piloter ces chantiers, d'après les sénateurs.
Ne nous voilons pas la face, monsieur le journaliste. De quel chantier vous parlez dans ce pays?
Mais il y a des chantiers, il y a sur le boulevard du Tangier ici à Kinshasa, on peut le remarquer, la modernisation du boulevard, vous doutez de ça?
Non, ce sont des faits anodins. Le boulevard du 30 juin n'est pas une priorité présente pour notre pays. Nous venons d'une situation de guerre. Quel impact le boulevard du 30 juin a présentement sur la République du Congo et dans la capitale de notre pays? Ça c'est de un. De deux, le premier chantier, et nous cesserons de le dire nous, c'est l'être humain, c'est l'homme. Nous devons recentrer le tout sur l'homme congolais. Il faut que l'homme congolais se retrouve. Des chantiers sans lendemain ne serviront absolument à rien. À titre d'exemple, voyez la situation à laquelle aujourd'hui la rentrée scolaire s'est passée. Voyez comment dans nos hôpitaux aujourd'hui, les médecins viennent d'entamer une grève sèche. Donc, tous ces chantiers, entre guillemets, ce n'est qu'un trompe-l'œil. Quant à dire maintenant comment le président de la République va se partager, bon, écoutez, il est d'abord président de la République. Il est là, comme le sénateur vient de le dire, il a les hommes qu'il a. Mais à mon humble avis, ces hommes-là, permettez-moi de vous le dire, ne font pas grand-chose. Et je suis en train de me poser la question, comment, au niveau de la SADC, ils vont aider le président de la République à s'en sortir, étant donné que la situation interne de notre pays est assez préoccupante.
Vous affirmez là que ces hommes ne font pas grand-chose à l'UDPS, on a l'impression que vous voyez tout en noir. Hein?
Non, non, non. Vous savez, monsieur le journaliste, hein, nous à l'UDPS, la malchance que nous avons toujours eue, c'est d'avoir prédit les choses. Et lorsqu'on les prédit, on nous a toujours taxé de rêveurs. Mais ce que nous avons prédit avant que les élections ne puissent avoir lieu dans notre pays se passe aujourd'hui. Où est la situation du Congolais moyen? Le médecin aujourd'hui est en grève. Nos compatriotes aujourd'hui dans les hôpitaux ne sont pas consultés. Justement, c'est à cause d'une situation que nous avons prévue.
Mais vous vous êtes retiré des élections. Hein. Si vous aviez pris part aux élections, peut-être ce serait autrement.
Non, monsieur le journaliste. Nous avons demandé aux Congolais de s'accaparer de ces élections. Je vous donne un exemple. La révision du fichier électoral, poser la question aux membres de la CI, ils n'ont pratiquement plus de moyens aujourd'hui. Nous avons dit aux Congolais de s'accaparer de ces élections, ce qui n'a pas été fait.
Alors là, je m'excuse, c'est une parenthèse que nous refermons, sinon nous risquons de nous écarter de notre sujet. Nous parlions des infrastructures et nous avons retenu que pour vous, ces chantiers, c'est un trompe, ça ne fait que tromper l'œil. Quoi. Professeur Edikia Mbokolo, un mot sur les infrastructures.
Bon, il y a là une querelle de politique intérieure hein, congolaise qui est évidemment importante, mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est que le Congo, c'est pas Kabila qui est président de la SADC, c'est le Congo qui est président de la SADC. Donc si Kabila échoue, c'est pas Kabila qui échoue, c'est le Congo qui échoue. Et ça va peser sur nous pendant les 10 ou 15 ans à venir. Donc tous les Congolais, qu'ils appartiennent à l'opposition ou à la majorité, ont besoin que Kabila réussisse dans son mandat. Ça doit être clair pour tout le monde. Alors la deuxième chose, c'est que pour les infrastructures, il existe donc le projet de la Transafricaine, donc c'est le projet routier qui va permettre de partir du Maroc jusqu'à l'Afrique du Sud, Et le Congo, à cause de notre position, nous sommes, un espace essentiel pour cette transafricaine. Et vous savez que ça pose des problèmes aussi de politique interne, parce que ça pose la question du rattachement de Pointe-Noire à Brazzaville et à Kinshasa, et du rattachement du port en eau profonde de Banana à Kinshasa. Donc là, je pense que M. Liritz a raison, c'est que le problème de politique intérieure rejoint le problème de politique extérieure. Parce que sur ce projet de transafricaine, il faut que le Congolais se mette d'accord sur leur infrastructure intérieure pour que celle-ci soit à même de s'adapter à la structure panafricaine. Mais à mon avis, le projet est un projet important, parce que nous devons savoir une chose, c'est que moi je voyage beaucoup dans la région CEAC et SADC. Au Gabon, il y a plein de Congolais qui sont immigrés là-bas comme chercheurs, comme cadres, comme travailleurs. En Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique, il y a plein de Congolais qui sont là-bas. Donc les Congolais ont besoin de l'intégration africaine, et je pense que sur le plan des infrastructures, si le projet de la panafricaine peut être rattaché au grand chantier du président de la République, ok, c'est très bien. Si ça ne se rattache pas, eh bien, il faut quand même que nous fassions la transafricaine. Et ça, c'est... il faut bien, je me permets d'insister dessus, il faut bien que nous sachions que ce ne sont pas les projets personnels du président Kabila, ce sont les projets de la République démocratique du Congo.
Sénateur Ernest Lungu, vous avez suivi Bernard Ali Rissassi, les chantiers pour lui, et c'est un trompe-l'œil.
Ah, ça c'est son point de vue, c'est son avis, son point de vue qui n'engage que lui-même.
Alors, en dehors des infrastructures, il y a également le volet politique, sécurité et démocratie. Monsieur le sénateur, qu'est-ce qu'on peut attendre du président Joseph Kabila quand on sait par exemple qu'au Zimbabwe, la situation politique n'est pas totalement stable, il y a le Madagascar. Qu'est-ce qu'on peut attendre du président? Ça figure parmi ses priorités?
Certainement, oui. On peut s'attendre à essayer, c'est d'ailleurs le problème qui était aujourd'hui pour que le président Mugabe puisse céder certains pouvoirs qu'il a afin qu'on organise le problème qui a sur lui.
À son premier ministre Morgan Tsvangirai.
Voilà, c'est dans ce sens-là. Effectivement, on y prend, je crois, ils doivent avoir résolu ce problème.
Mais en interne, par exemple, ici en RDC, il y a le problème LRA, FDLR. Est-ce que le président, par exemple, pourrait faire appel aux forces de la SADC?
Je crois que le problème LRA continue à trouver maintenant sa solution. La solution sera trouvée bientôt. Les militaires sont en train de faire quelque chose là-dessus.
Les militaires, les FRDC?
Non, les militaires congolais.
Congolais. Bernard Ali Rissassi, sur le volet politique, sécurité et démocratie.
Je crois que tout à l'heure, le professeur Eli Kambokolo,
oui.
Le professeur Eli Kambokolo a fait allusion à quelque chose de très important. Il a parlé de l'intégration économique et il dira ceci que, je paraphrase, avant cette intégration, il faut d'abord un consensus intérieur. Et chez nous, les DPS, nous avons commencé à le dire depuis très longtemps. Vous venez de faire allusion du problème politique, du problème sécuritaire et de la démocratie. Nous venons d'une situation de guerre qui a plus que longtemps duré. Et jusqu'à ce jour, ce n'est pas accepté pour les personnes. Vous êtes mieux tués. Beaucoup de nos compatriotes continuent à tomber, à se déplacer et à errer dans leur propre pays. Il est grand temps. Sincèrement, il est grand temps que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour mettre fin à cette guerre. Il faut qu'il y ait un consensus politique intérieur. Et cela doit d'abord commencer par tous les Congolais, toutes tendances confondues. Nous avons eu à le dire en proposant une table ronde internationale pour trouver des solutions à notre pays. Si nous disons international sous la RDC, c'est parce que voyez un peu la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas d'argent dans notre pays. Les populations sont en souffrance. Un paiement de salaire la communauté internationale, ensemble, après avoir défini les règles du jeu d'une manière claire et sincère, nous aider de manière à ce que nous puissions nous en sortir.
Mais la SADC, c'est déjà un début de solution.
Oui, la SADC, c'est un début de solution,
mais vous semblez ne pas trop y croire. Hein. Vous avez l'air pessimiste, Bernard Alifissati.
Non, mais, monsieur le journaliste, les agglomérations régionales, ce sont d'abord des intérêts. Quel intérêt aujourd'hui le Congo? Qu'est-ce que le Congo a à donner à la SADC? Pas grand-chose. Je crois que, quelque part, nous subissons un peu la loi des autres. Tout simplement parce que notre pays, présentement, il ne faut pas se voiler les yeux, nous sommes déchirés. Nous n'avons pas une même vision pour galvaniser l'ensemble du peuple congolais de manière à ce que les Congolais s'en sortent. D'un côté, on parle de la guerre, de l'autre, on dit que les femmes laissent, mais vous voyez dans quelles conditions les militaires se trouvent. Nos pauvres militaires, ce sont des soignants militaires, je le reconnais. Mais dans quelles conditions on met ces militaires? Comment voulez-vous que des gens aillent à la guerre lorsque leur ration est détournée? Comment voulez-vous que ces militaires fassent la guerre lorsqu'il sait qu'en quittant le camp pour aller au fond, le lendemain, ce sont les épouses et les enfants qui se retrouvent dans la rue? Donc, un consensus s'avère très important. Il faut absolument que les Congolais se retrouvent, que la communauté internationale, je ne parle pas seulement de la SADC, je parle de toute l'Afrique et de tous les pays, tous les peuples et pays de paix et de justice, de manière à ce que les Congolais puissent s'en sortir. Mais il faut d'abord que les Congolais se décident eux-mêmes. Sinon, ça ne serait bien rien.
Sénateur Ernest Lungu, comment vous réagissez au propos de Bernard Ali Rissassi avant de donner la parole au professeur Eli Kamboko?
Effectivement, il n'a pas tort. Se retrouver, c'est encore mieux. Les Congolais peuvent se retrouver et trouver une solution. S'il y a encore des problèmes à trouver.
Mais les Congolais, semble-t-il, se sont retrouvés plusieurs fois. Hein? Plusieurs fois. Est-ce un manque de volonté politique? Qu'est-ce qui se passe?
Certainement. Se retrouver, ce n'est pas dire que puisqu'on s'est retrouvé hier, aujourd'hui on ne peut pas se retrouver. On doit se retrouver quand il y a problème.
Professeur Eli Kamboko-Lo, le volet politique, sécurité et démocratie.
Oui, c'est un volet dans lequel... nous avons des insuffisances et des avantages. Hein. Les insuffisances, c'est que nous avons beaucoup peiné pour arriver à des élections régulières en 2010, encore que une partie de l'opinion politique congolaise représentée par l'UDPS conteste le bien fondé de ce qui a été fait. Donc il y a peut-être du consensus intérieur à réaliser encore, et je pense que dans une famille, et la nation est une famille, s'il faut se voir 150 fois avant d'arriver à se mettre d'accord, eh bien il faut se voir 150 fois. Mais il faut voir aussi qu'en même temps, nous avons les autres pays de la sous-région, de la SADC, qui ont des problèmes dans le sens de la marche vers la démocratie et l'état de droit. Vous avez évoqué le cas du Zimbabwe, et c'est évident que le Congo peut jouer un rôle par rapport à cela. C'est sûr que si on veut que la direction, la présidence congolaise de la SADC soit effective, il serait bon en effet qu'il y ait une mobilisation générale de l'opinion congolaise en faveur de cette intégration. Et cela peut passer en effet par ces espèces de sommets, de rencontres entre grands partenaires que nous appelons dialogues, rencontres qui sont évidemment importantes. Mais n'oubliez pas les experts congolais, parce que nous avons en matière économique, notamment dans la question des finances, dans la question des parités monétaires, nous appartenons à la zone dollar, comme beaucoup de nos pays partenaires. Le projet de monnaie commune de la SADC est un projet qui est bancable. Je pense que à la Banque centrale du Congo, des gens comme le gouverneur Massango et quelques autres sont des gens qui sont capables, par leur expérience, d'apporter quelque chose de concret dans ce domaine. Donc, même si un an, c'est un temps très court, hein, en une année, on ne peut pas faire grand-chose, mais si le Congo impulse des initiatives suffisamment importantes, Si le Congo peut mettre dans les structures qui vont naître de ces initiatives des experts congolais de haut niveau suffisamment capables pour contribuer à l'effort collectif et à la visibilité de la nation, je pense que ça fera quelque chose de bien pour nous tous.
Dialogue entre congolais de ce soir se penche sur la clôture ce mardi à Kinshasa du 29e sommet de la SADC. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, accède à la présidence de cette organisation sous-régionale pour un mandat d'une année. Quelles sont les priorités du chef de l'État congolais à la tête de la SADC et comment compte-t-il s'y prendre pour les réaliser? Nos invités sont Ernest Lungu Kasongo, sénateur membre de la majorité présidentielle et rapporteur adjoint de la Commission des relations extérieures du Sénat, Bernard Ali Rissassi, porte-parole de l'UDPS, professeur Elikian Bokolo, analyste politique et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, en France. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent à ce sujet. Il y a Martin Kasongo de Lodja au Kassai-Oriental qui pense qu'il est trop tôt pour le Congo de vouloir jouer le premier rôle sur l'échiquier international, car nous avons encore besoin de nous concentrer sur nos problèmes et y trouver des solutions. Jean-Pierre Tamboué de Lubumbashi au Katanga se demande comment le président Kabila saura stabiliser la SADC, étant donné que le Congo n'est pas encore stable sur le plan politique et économique. Félix Foufoulafou du Siro en province orientale estime que le fait d'être à la tête de la SADC constitue un défi lancé contre la RDC, d'autant plus que les différents autres chefs d'État de la sous-région ne sont pas ignorants de l'absence de la culture de cotisation de la RDC au sein des organisations internationales. Rodrigue de Béni au Nord Kivu pense que c'est très bien que notre président soit à la tête de la SADC. Cela prouve qu'on a de l'estime dans la gérance de notre président. Il est sûr que Joseph Kabila sera à la hauteur de cette tâche qui sûrement sera un succès. Mangala Ponda de Kalemie au Katanga pense que le Congo doit se développer avec ses atouts et non être à la merci de la SADC. Sénateur Ernest Lungu, comment vous entrevoyez ces quelques réactions des auditeurs?
Il n'y a que des personnes qui ne pensent pas aller très loin, qui peuvent dire non, oui, c'est très tôt, pourquoi le président a pris le poste de président, la présidence de la SADC. Mais il faut commencer. Quelque chose, même si on construit une maison, on doit commencer par la fondation. On doit commencer et aller de l'avant, petit à petit, on va faire ce qu'on préfère.
J'ajoute cette réaction d'Augustin Mwango de Kalima Omanima. Il dit « Je félicite le président pour sa nomination, mais je pense que ce n'est pas sa première fois d'être à la tête d'une organisation sous-régionale. L'essentiel pour la SADC est de produire pour ne pas dépendre quasiment de l'extérieur, car on ne manque pas de moyens et de la bonne volonté. »
Certainement. Certainement, il avait tellement raison.
Bernard Ali Rissassi, Kakou Lycée sous Gustave de Kalemi, lui dit « Nous saluons la désignation de notre président à la tête. Cependant, nous déplorons le fait que la RDC soit souvent marginalisée dans cette sous-région, mais aussi victime des cas d'inclusion de la part de certains pays membres de la même SADC. »
Justement, comme je l'ai dit au début, ce que lui déplore, on l'a toujours déploré depuis bien longtemps. C'est un problème de leadership. Les incursions, on le fait et on le réalise que lorsqu'on se trouve devant un adversaire qui est faible. Il s'avère qu'aujourd'hui, notre pays est faible sur tous les plans.
Donc, ce n'est pas trop fort sur tous les plans?
Non, ne nous voilons pas la face. Je ne dis pas que je ne suis pas trop fort, si c'est trop fort, mais je vous assure, sur tous les plans, nous sommes faibles. Et lorsque nous sommes faibles, ne vous attendez pas à ce que les voisins vous fassent des cadeaux. Donc, en ce moment, le Congo, les Congolais, comme l'a dit le professeur Elikian Bokolo, pour essayer d'envisager des choses de très grand, ils doivent d'abord réfléchir à ce qui peut être fait ici à moindre coût, à partir d'une gestion saine, à partir d'une politique cohérente et efficiente. Et pour cela, le Congo a les hommes qu'il faut. Seulement, ils sont mal utilisés, ils sont marginalisés.
Professeur Elikian Bokolo, un mot sur les quelques réactions des auditeurs avant d'aborder la deuxième partie de cette émission.
Oui, moi j'ai beaucoup apprécié l'auditeur qui a parlé des cotisations. Je crois que c'est un problème important parce que nous sommes en retard, un retard considérable sur les cotisations dans toutes les organisations dont nous sommes partis. Et là, je parle sous le contrôle de l'honorable sénateur. J'ai eu des informations selon lesquelles le Congo a commencé à payer ses retards pour être à jour. Donc, à l'intérieur de la DEC, il faut évidemment que nous soyons à jour par rapport à nos cotisations. C'est une condition pour que des experts congolais puissent être nommés dans les institutions de la FADEC, et c'est aussi une condition pour que la voix du président de la République soit très très bien entendue. Cette question des cotisations est vraiment, à mon avis, une question importante. En même temps, la question de savoir est-ce que on n'embrasse pas trop, je dirais que avec cette présidence, le Congo se trouve être dans la position d'un pauvre monsieur qui reçoit une Jaguar. Il touche, je ne sais pas, $100 par mois, et le plein de la Jaguar lui coûte $40 par mois. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit renoncer à prendre la Jaguar, ou est-ce qu'il doit quand même la prendre en disant, eh bien, je vais faire l'effort de trouver l'argent pour acheter le plein de cette Jaguar?
Merci.
Moi, je crois que la Jaguar de la SADC n'est pas trop gros pour le Congo, et je pense que nous devons l'assumer et réunir toutes les conditions pour que le travail que le président Kabila va faire puisse être reconnu et soit reconnu à l'avantage de l'ensemble de la République démocratique du Congo, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas le président Kabila,
merci, professeur.
Le Congo qui est président de la RSAD.
Merci professeur, nous passons à la deuxième partie de cette émission sans transition. Comment le chef de l'État congolais compte-t-il s'y prendre pour réaliser les priorités qu'il a énumérées? Se confiant à Radio Okapi en marge de ce sommet, le député national MLC Délice Sanga déclare que ce sommet marque le retour de la RDC sur la scène régionale et internationale, mais seulement cet élu du peuple pense que l'intégration régionale ne peut pas résorber les déficits de la politique interne, et dans ce domaine, ce parlementaire estime que la RDC a encore beaucoup à faire. On écoute le député national Délice Sanga au micro de José Deschartominga.
L'intégration sous-régionale n'a pas pour objet de résorber les déficits de politique publique interne et qu'on ne peut affronter les défis de l'intégration que si on est préparé en interne, c'est-à-dire que l'on a défini à l'interne des politiques en soi plus cohérentes, beaucoup plus fortes et beaucoup plus efficaces et qui nous permet d'affronter les autres dans ces défis de l'intégration. Parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Lorsque vous y allez en faiblesse, vous y perdez, que vous n'y gagnez. Pour que l'intégration soit un levier pour nous, il faudrait bien que les politiques public conduit dans ces domaines de coopération soit performante. Et il me semble que le Congo aujourd'hui n'a pas encore les moyens de pouvoir participer de manière efficace à cette intégration, ce qui ne veut pas dire que ce soit impossible. Ce qui veut dire tout simplement qu'il faut redoubler d'efforts en interne pour être au niveau et affronter ces échéances-là.
Sénateur Ernest Lungu, la situation actuelle du Congo n'est-elle pas une épine qui va déranger, qui va empêcher le président Kabila de réaliser ses priorités?
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une équipe. La situation n'est pas catastrophique.
Catastrophique.
Bon, nous avons des hommes, nous avons des gens qui peuvent s'assumer.
Oui, ça, vous l'avez déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, vous étiez à ces travaux. Quels sont les éléments, par exemple, qu'a donné le président de la République pour conforter la réalisation de ces priorités?
Le président a demandé à ce que qu'on dise d'abord ce que la situation antérieure de la communauté. Qu'on étudie cette situation pour refaire l'avenir.
Bernard Ali Rissassi.
Je dirais ceci, je suis d'accord avec M. Denis Sanga. En fait, actuellement, nous sommes en 2009. Vous vous souviendrez qu'on avait prévu des élections locales pour la fin de cette année. Je crois que présentement, pour réussir à affronter les défis internationaux et les défis de la sous-région, le président de la République
devra maximiser les efforts pour créer un climat d'harmonie et de sainteté d'abord au sein du pays. Lorsque je dis sainteté, c'est-à-dire de réserver les défenses publiques, d'annuler pratiquement tout ce qui peut permettre de créer un déficit pour le développement harmonieux du Congolais et du Congo.
Concrètement,
je dis
quelques propositions concrètes.
Bientôt, le président sera en fin de mandat, d'ici 2011. Bientôt. Il n'a qu'un seul mandat d'une année au niveau de la SADC. Vous comprenez que, au niveau interne, le président de la République devra se concentrer sur savoir comment les élections vont se passer dans notre pays d'ici 2011. Il n'y a pas que dans notre pays des problèmes politiques. Vous savez qu'en Madagascar, il y a les mêmes problèmes, et aussi au Zimbabwe. Donc nous devons aussi commencer par là, parce que nous sommes aussi dans cette situation-là. Pour réussir au niveau de la SADC, pour vous donner un exemple qui pourra entrer dans l'histoire de notre pays, il faudrait que le président de la République se prépare à ce que ces élections se passent et se réalisent dans le calme et la paix. Et le préalable que nous demandons au niveau de l'UDPS, c'est que les Congolais se retrouvent, qu'il y ait une table ronde internationale qui puisse permettre aux Congolais de se dire la vérité et de faire table rase sur les situations qui se passent dans notre pays.
Voilà, vous l'avez déjà dit. Professeur Édikem Bokolo, comment le président de la République pourrait-il s'y prendre pour réaliser ses priorités au niveau de la SADC?
Oui, donc je crois que dans le débat tel qu'il est en train de s'orienter, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Hein. L'idée que le Congo à l'interne doit être fort pour jouer son rôle international est une idée bonne en soi, mais sa mise en œuvre pose un certain nombre de problèmes. Si nous devons attendre que le Congo soit parfaitement au point, on ne sera jamais président de la SADC. Regardez ce que Obama est en train de faire et ce que Sarkozy a fait quand il était président, quand la France était président de l'Union européenne. La France avait des millions de chômeurs, comme le Congo a des tas de problèmes. Nous avons du chômage, nous avons des déficits budgétaires, nous avons toute une série de choses, mais nous ne pouvons pas attendre que tout soit positif dans ce domaine avant d'assumer des responsabilités internationales. Donc il faut que, avec nos insuffisances, nous menions quand même notre rôle à l'échelle internationale. Donc ça veut dire que le Congo doit jouer avec ses experts, avec ses ressources, avec son Parlement, avec son Sénat, le rôle qui lui revient dans la SADC, parce que le Congo a été élu pour ça, encore une fois, c'est pas Joseph Kabila qui a été élu président de la SADC, c'est la RDC qui est élue président de la SADC. Et en second lieu, il faut que par rapport à cela, le Congo s'arrange pour profiter de cette contrainte internationale pour améliorer un certain nombre de ses performances intérieures.
Merci pour
donc moi, je ne pense pas qu'on doit mettre d'abord les performances intérieures avant de faire l'extérieur, parce que le monde extérieur ne va pas nous attendre que nous soyons debout pour nous faire appel.
Merci
puisqu'on
professeur.
Nous fait appel aujourd'hui, eh bien, il faut y aller aujourd'hui.
Merci, professeur. Sénateur Ernest Lungu, au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, quelle impulsion vous pouvez donner pour aider le président de la République à réaliser ses priorités brièvement?
Nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui pour l'aider dans tout ce qu'il pourra demander.
Bernard Ali Rissassi, quel rôle le Sénat ou l'Assemblée nationale peuvent-ils jouer pour aider le président de la République?
Bon, je ne sais pas ce que je peux dire par là. Je dirais seulement ceci, c'est que tous les Congolais où qu'ils se trouvent devront jouer un rôle positif pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Ce n'est pas parce que le Congo aujourd'hui est la présidente de la SADC que nos misères prendront fin. Nous devons faire un effort pour qu'ensemble nous sortions notre pays de la misère, de la situation désastreuse dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Bernard Ali Rissati, porte-parole de l'UDPS. Merci au sénateur Ernest Lungu Kasongo, membre de la majorité présidentielle et rapporteur adjoint de la Commission de relations extérieures du Sénat. Merci à vous, professeur Édikem Bokolo, analyste politique et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, en France. Merci à tous nos auditeurs et au revoir.
Thank you.